encore un de ces dimanches où le Seigneur nous fait une grâce peut-être encore toute particulière de nous montrer que son Église est en fait son œuvre, que nous voulions ou non, c'est lui qui fait avancer son projet. Mais c'est encore un dimanche qui, pour moi, me rappelle que dans toutes nos faiblesses, comme dans toutes les richesses que le Seigneur nous a données, nous pouvons être les instruments que le Seigneur utilise pour accomplir son œuvre. Et j'aimerais ce matin que votre cœur abonde dans la joie à cause de ce qui s'est passé cette semaine et de ce que nous avons entendu, de ce que le Seigneur a fait par notre motivation, nos talents, mais aussi dans le cœur de ses enfants. J'aimerais que votre cœur soit dans la joie lorsque le Seigneur nous a dotés de talents comme ceux qui nous aident à chanter et à le louer le dimanche matin et qui, dimanche après dimanche, sont pour nous une aide dans l'adoration que nous voulons apporter à notre Seigneur. Mais j'aimerais, et ici je profite de mon rôle en tant qu'ancien, de vous inviter à élargir votre regard. Élargissez votre regard dans les semaines et les mois qui viennent pour voir où le Seigneur est aussi à l'œuvre dans notre Église. Parce que le Seigneur n'agit pas seulement dans les choses toujours qui sont belles, qui marchent bien. Mais le Seigneur nous fait la promesse aussi qu'il utilise nos moments difficiles et nos faiblesses pour accomplir son œuvre. Et j'aimerais tout simplement que nous ne fassions pas le tri simplement en nous attendant à ce que le Seigneur nous donne toujours des choses extraordinairement belles pour nous réjouir en lui, mais que nous sachions regarder tout ce qui est en train de se passer et de se dire, Seigneur, quelle est l'œuvre que tu es en train d'accomplir ? Et je dis cela parce que la semaine dernière, vous avez tous vu le camp. Mais la semaine dernière, samedi dernier, le conseil de l'Église se retrouvait pour une journée entière, c'est la deuxième année que nous le faisons, pour travailler et réfléchir un petit peu à notre Église. Et vous savez, tous les sujets qui sont en train d'être travaillés et brassés. Et là, nous avons travaillé, oui, au calendrier de l'Église et nous aurons des choses à partager avec vous dans les semaines qui viennent. Nous avons travaillé, bien sûr, aussi à l'avancement de ce projet de dynamiser encore nos activités en fonction afin que, dans notre Église, les cinq ministères qui nous sont présentés dans le Nouveau Testament soient réellement mis en œuvre au bénéfice de chacun. Nous travaillons aussi à ce que chacun puisse mettre son don à contribution dans notre Église et ainsi faire partie du corps. Nous avons travaillé aussi à l'élargissement du conseil, sujet qui tient au cœur à beaucoup d'entre vous, mais qui tient à notre cœur aussi. Et puis nous avons encore une fois, et là peut-être de façon plus forte encore, été interpellés par la lecture des Écritures et une lecture que Pierre nous a faite la semaine dernière et où nous avons pu être interpellés de voir comment le Seigneur, lui, est un Seigneur de rédemption. Et comment toutes ces petites choses qui sont en train de se passer dans notre Église, les plus belles, les plus excitantes, comme celles qui nous attristent, sont en fait entre les mains du Seigneur et qu'il entend faire son œuvre. Je ne sais pas comment vous reliez différents points dans la vie de notre Église dernièrement, mais pour moi, il y a de plus en plus de choses qui arrivent ensemble. Que ce soit ces bons moments que nous avons vécus, que ce soit les moments difficiles que nous avons vécus, ou que ce soit de nouveau revenir à ces sujets de prédication un petit peu de base, et peut-être en particulier la série que nous avons faite sur le Saint-Esprit. Pour moi, tout ça, je trouve et je vois comment le Seigneur est en train de simplement nous dire à nouveau dans l'église de Prévesaint, voilà ce que j'entends faire. Alors je confesserai que pour l'instant, on n'a pas encore une idée très claire de ce que le Seigneur va faire ou ce qu'il veut faire. Mais en tout cas, le Seigneur nous ramène continuellement à l'Écriture et au fondement de ce qu'est son Église et de ce que devrait être son Église. Ce n'est pas tellement une idée originale que nous cherchons, mais comment est-ce que nous pouvons être l'Église que le Seigneur entend, que nous soyons ici à Prévesaint. Et donc ce matin, j'aimerais vous lancer sur une autre piste, une piste qui va dans le même sens, parce que lorsque nous avions parler du Saint-Esprit, nous avons tous découvert, et moi le premier à nouveau, combien l'œuvre du Saint-Esprit est riche et diverse. L'Esprit était là dans la création. L'Esprit était là dans l'Ancien Testament aussi pour animer certains prophètes, animer tous les prophètes, mais animer aussi certaines autres personnes. Mais le Saint-Esprit était là aussi au moment de l'Église. Et c'est lui qui, dans un sens, est arrivé en force pour porter la bonne nouvelle, pour équiper ceux qui allaient parler en son nom, pour créer ce corps et donner à chacun les dons dont l'Église a besoin. C'est lui qui, jour après jour, travaille à nous conduire dans la vérité, mais aussi à tisser notre unité. Mais peut-être une des choses que vous vous souvenez peut-être, ou peut-être moins, c'est que le Saint-Esprit est celui qui prend l'œuvre de justification et de rachat de Jésus-Christ à la croix et qui nous la rend à chacun réelle. C'est-à-dire la vie qui a été acquise à la croix, la victoire qui a été acquise à la croix, c'est l'œuvre du Saint-Esprit d'entrer dans le cœur de chacun d'entre nous et d'en faire une réalité. Et il serait inutile de notre part de simplement cantonner l'œuvre du Saint-Esprit à ce qui se fait dans l'Église et que ce qui se fait dans le corps, ce qui se fait parmi nous, par nos dons, si nous n'en regardons pas et si nous ne sommes pas ouverts à ce que le Saint-Esprit veut faire dans notre propre vie. Et ce matin, j'aimerais prendre comme texte de base un texte que je tire de la deuxième épître de Pierre. Merci Pierrick. Au chapitre 1, petit, hein. Alors écoutez-moi, je lirai le même texte. C'est petit sur ma feuille aussi. De la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Sa divine puissance, nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celles-y nous assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elles, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette même raison, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez pas. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Oui, j'estime justement de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans cette tente, car je sais que je quitterai bientôt ce corps, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. Je prendrai soin, dit l'apôtre Pierre, de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. On peut revenir au premier, s'il te plaît. Nous avons vu, lorsque nous avons parlé du Saint-Esprit, qu'il y a un certain nombre d'expressions comme être rempli du Saint-Esprit ou pouvoir attrister le Saint-Esprit. Ou même il y a des exemples dans l'Épître aux Corinthiens où des gens avaient des dons mais ne les utilisaient pas toujours à des fins tout à fait nobles ou avec l'intention que le Seigneur voulait. Et c'est là où on se rend compte que la vie dans l'Esprit n'est pas simplement une position statique, mais c'est quelque chose dans lequel on peut grandir, évoluer. Mais aussi, peut-être, c'est un domaine dans lequel parfois on peut reculer. Et la vie de l'Esprit n'est pas simplement quelque chose qui nous est donné une bonne fois pour toutes, mais c'est quelque chose dans lequel nous pouvons nous mouvoir, bouger, grandir, nous développer, nous affermir. Et ce matin, dans cette veine-là, j'aimerais vous mettre sur une piste qui est évidente dans les Écritures, mais qui quelquefois, on a besoin de s'en rappeler. Et j'aimerais pour cela tout d'abord attirer votre attention sur quelques éléments de ce texte, mais un tout petit peu en superficie. Je ne vais pas plonger de façon très profonde dans le texte, mais je voudrais simplement attirer votre attention sur quelques affirmations. La première se trouve dans le verset 1 et où cette épître est écrite et l'apôtre Pierre a une façon extrêmement large de s'adresser à ses destinataires. Il dit que c'est à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre. C'est simple. Ce n'est pas telle église ou telle église, ce n'est pas telle personne avec telle caractéristique. La raison pour laquelle l'apôtre Paul veut écrire, c'est tout simplement écrire à ses frères et sœurs dans la foi. Et ceux qui ont reçu cette foi par l'œuvre de Jésus-Christ. Chers amis, ce que l'apôtre Pierre est en train d'écrire nous concerne tous. Dans le simple fait que nous nous rassemblons ici de par notre foi commune en Jésus-Christ, ce que l'apôtre Pierre veut enseigner et dire de la part du Seigneur nous touche tous. Il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de critères, il n'y a pas d'autres choses qui peuvent nous rendre plus à l'écoute ou pas à l'écoute. Mais ici, l'apôtre Pierre nous dit, c'est à tous que je veux le dire. Et puis au verset 12 et suivant que j'ai lu là aussi, il dit, vous les connaissez ces choses-là. Mais tant que je serai vivant, je m'attellerai à vous les rappeler, parce qu'elles sont fondamentales et essentielles à notre vie en tant que chrétien. Il nous est dit, au verset 3, que sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et la piété. Je ne vais pas creuser, mais laissez-vous simplement imprégner par cette affirmation. Et je me suis permis d'aller vérifier dans le grec si réellement c'était... Parce que vous savez quelquefois les traductions... Non, effectivement c'est ça. Le Seigneur nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'ordre spirituel et dans l'ordre naturel. Le Seigneur ne nous donne pas seulement ce dont nous avons besoin dans notre vie spirituelle. Il nous donne tout en puissance pour notre vie tout entière et pour notre vie spirituelle. Et je reviendrai là-dessus un peu plus loin. Et tout ça nous est donné, nous est-il dit, de par la puissance de Jésus-Christ. Et cette puissance se dégage dans l'amour infini et la bonté incommensurable de notre Seigneur. Si vous regardez à nouveau ce verset 3, c'est sa divine puissance. Ce n'est pas que Dieu voulait simplement faire une démonstration d'éclat aux yeux de tout le monde en disant « Je suis le plus grand de tous les dieux ». La divine puissance de Dieu qui se manifeste ici, c'est cet amour que rien n'a arrêté et qu'il l'a poussé jusqu'à donner son Fils, et qu'il le pousse aujourd'hui à se manifester par sa bonté dans notre vie. La puissance divine aujourd'hui est à l'œuvre, et c'est le désir de la part de notre Seigneur de déverser sur nous, dans sa bonté, tout ce qui est nécessaire pour vivre et pour avoir la foi. Et aujourd'hui, nous sommes tous au bénéfice de cela. Et nous sommes tous appelés à vivre cette vie. Et il nous est dit, là au verset 4, celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Et là, Pierre nous donne un peu plus de détails. Dieu nous fait de grandes et précieuses promesses. Nous le savons tous. Mais est-ce que nous saisissons ces promesses? Et nous pourrions passer beaucoup de temps à passer en revue ce que le Nouveau Testament nous enseigne sur les promesses du Seigneur et de nous dire, mais est-ce que nous les saisissons, ces promesses? Est-ce que nous les croyons? Ou est-ce que quelque part dans notre tête, nous n'avons pas trouvé des excuses pour expliquer pourquoi elle ne se déverse pas. À quel point il est étonnant de voir le débat qu'il peut y avoir entre chrétiens sur les dons, à savoir quels sont ceux qui ont encore lieu aujourd'hui, quels sont ceux qui se sont arrêtés. À quel point il est étonnant de voir comment les chrétiens de notre siècle sont des personnes qui vivent quand même pas mal dans le stress et sous la pression. Ce ne sont pas nécessairement toujours des personnes joyeuses et bon vivants, quand pourtant il nous est dit que le Seigneur nous donne sa joie et sa paix. Et ça serait un sujet en soi, d'éplucher les promesses du Nouveau Testament et de nous dire à quel point est-ce que nous les croyons et vivons par elles, à quel point est-ce que nous nous engageons dans un dialogue avec le Seigneur pour que ces promesses deviennent réalité dans notre propre vie. Et je le dis ce matin parce que c'est comme ça que moi je vis. Je ne saisis pas toutes les promesses que le Seigneur nous donne. Je ne les crois pas toutes. Mais la deuxième chose qui nous est donnée aussi ici, c'est que tout ce qui nous est donné pour la victoire sur la corruption du monde. Maintenant là, moi il y a beaucoup de choses où j'aimerais quand même être un petit peu victorieux dans ma vie. Moi il y a beaucoup de choses dans le monde qui m'embêtent beaucoup et qui m'influencent et sur lesquelles j'aimerais pouvoir être victorieux. Et je suis certain que pour vous, il y a des choses qui vous pèsent, qui font mal, que vous dites pourquoi est-ce que je suis dans cet environnement-là qui toujours est en train de me tirer vers le bas. Et je n'arrive pas à m'en sortir. Et si vous relisez le chapitre 7 de l'Épître aux Romains de l'apôtre Paul, il y a constamment dans la vie du chrétien cette lutte entre ce qu'on aimerait faire et ce qu'on fait. Et on aspire tous à pouvoir crier victoire un jour. Mais l'apôtre Pierre nous dit ici, ces promesses sont là pour que vous ayez la victoire. Et la dernière chose qu'il nous a dit, c'est cette participation à la nature divine, non pas une participation dans le sens où nous devenons des dieux, mais plutôt une participation qui est d'ordre moral. Mais combien d'entre nous aspirons à être des gens meilleurs que ce que nous sommes ? Nous savons ce à quoi nous appelle la Bible, nous savons ce à quoi nous aspirons, et pourtant nous sommes encore là, parfois, en nous disant qu'est-ce qui arrive ? C'est que quelquefois on se résigne et on s'arrête et cette vie de l'esprit commence un tout petit peu à s'atténuer. Et puis on s'arrête au bord du chemin, puis on se dit, bon, bah, très bien, au moins j'ai le Saint-Esprit, au moins je suis sauvé. Mais pour plus tard. Pour plus tard, la rédemption totale. Et on baisse les bras fatigués. Maintenant, ce texte devient très concret pour moi. Le Saint-Esprit et la promesse de Dieu nous sont donnés pour manifester cette puissance de la bonté de Dieu dans notre propre vie, pour nous aider à vivre dans le monde réel et à vivre dans le monde spirituel. Et tout ça avec l'objectif de nous aider à vaincre cette corruption, de nous aider à vaincre le monde dans lequel nous vivons, mais aussi à être transformés à l'image de notre Sauveur. Mes chers amis, le point de départ de ce texte, et comme nous verrons tout à l'heure aussi dans les différentes caractéristiques, le point de départ est notre foi. Le point de départ est notre foi. Et je ne suis pas en train de dire que notre foi est la condition de. Notre foi est simplement le plus petit commun dénominateur que nous pouvons avoir et qui suffit pour que le Seigneur déverse sa bonté dans notre propre vie. Tu crois ce que j'ai fait ? Super. Tu vas voir. C'est aussi simple que ça. Parce que Pierre a la grande sagesse de nous rappeler que la foi que nous avons est une foi non pas que nous avons développée par nous-mêmes, mais c'est une foi qui nous a été donnée et que nous avons reçue. Mais tout repose sur le simple fait que si nous croyons et avons reçu le salut en Jésus-Christ, c'est la promesse qui nous est faite par l'action du Saint-Esprit dans notre propre vie. En 4 versets, rien de moins. Rien de moins que la transformation de votre personne d'image ou de gloire en gloire, pardon, à l'image de Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur entend faire dans notre propre vie par son Saint-Esprit. on a toute une série ici, après, de caractéristiques de la vie du chrétien. Et l'apôtre Pierre, lui, semble vraiment articuler tout ça en partant de la foi et en terminant avec l'amour. Et puis il dit, vous ajoutez ça, puis à ça, après vous ajoutez ça, puis après vous ajoutez ça. Ok ? Et ça devrait vous emmener de la foi à l'amour, ou plutôt d'être complet. Et je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais ça vous rappelle certainement un autre texte, qui est le texte de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, où il nous avait parlé du fruit de l'Esprit. Et où là, lui aussi, il parle de toute une série de vertus ou de caractéristiques du chrétien, qui sont, d'après lui, la manifestation de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Si nous disons que le Saint-Esprit est dans notre vie, dit l'apôtre Paul, ne regardez pas à l'extérieur, ne regardez pas ce que vous faites simplement à l'extérieur, mais regardez qui vous êtes. Et ce qui est étonnant, c'est que les petits problèmes qu'il y avait dans les églises de Galatie, et où il y avait ce débat théologique entre est-ce qu'il fallait encore obéir à la loi ou ne plus obéir à la loi, l'apôtre, en fait, ramène tout ça à tout simplement qu'est-ce qui est dans le cœur des hommes ? Qu'est-ce qui est dans le cœur des hommes ? Qui sont-ils ? Et à quel point est-ce qu'ils portent en abondance le fruit de l'Esprit ? Et ici, c'est le même projet qu'à l'apôtre Pierre. Alors nous, on est souvent coincés entre deux choses un petit peu. On se dit, on n'est plus sous la loi, donc on n'est plus obligé de faire des choses. C'est vrai. C'est-à-dire que notre salut ne dépend pas de ce que nous faisons. Et puis il y en a d'autres qui disent non, il faut continuer à faire des choses parce que si on est né de l'esprit, il faut marcher selon l'esprit, c'est-à-dire il faut vraiment que notre comportement soit conforme avec ce qu'on professe. Et on n'arrive pas à sortir de ce débat. Parce que tous les deux ont raison. Bien sûr, nous ne sommes plus appelés, et ça c'est fondamental, à faire des actions pour acquérir notre salut. Et de cela, nous sommes totalement libérés. Mais il n'empêche que nous sommes appelés, et c'est cette vocation qui est adressée à tous les chrétiens, à être transformés. Et moi, ce que j'aimerais, je ne suis pas celui qui l'a inventé, mais à la suite de bien d'autres, vous dire, regardez ce fruit de l'esprit, ou regardez cette série de caractéristiques du chrétien dont parle l'apôtre Pierre, non pas comme des choses que nous ayons à faire les unes après les autres, puis après dire j'ai fait, mais de regarder ça comme étant la transformation de votre caractère et de votre personne. Parfois, le Seigneur ne s'attarde pas tellement à ce que nous faisons, il s'attarde à ce qui est dans le cœur de l'homme. Et c'est ça qui l'intéresse. Et c'est pour ça que des personnages comme David, qui pourtant ont été des guerriers, qui pourtant ont fait des choses qui ne sont pas toujours très belles, cet homme peut quand même être un homme selon le cœur de Dieu, parce que son cœur et son caractère, sa trempe, sa fibre sont celles du Seigneur. Et à contrario, vous pouvez avoir un certain nombre de personnes qui, par des actes extérieurs, etc., et tout, semblent se conformer à la volonté du Seigneur, mais dont le cœur n'est pas au Seigneur. Et le fruit de l'Esprit, ou ce dont parle l'apôtre Pierre ici, c'est en fait, nous sommes appelés à être transformé par le Saint-Esprit dans notre caractère. Parce que ce que le Seigneur cherche, c'est notre personne. Ce que le Seigneur cherche, c'est notre cœur. Ce qu'il cherche, c'est l'amour que nous lui portons au plus profond de nous-mêmes, comme lorsqu'il parlait à l'apôtre Pierre en lui disant « Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ?» Et ici, ce que le Seigneur se propose de faire, c'est de transformer notre personne, c'est de transformer notre caractère et de devenir la personne qu'il veut que nous soyons. Et ce qu'il y a de formidable dans ces deux listes, si vous les reprenez, c'est que les deux listes mêlent à la fois ce qui est d'ordre spirituel, mais aussi ce qui est d'ordre, comment je dirais, naturel ou humain. Le contrôle de soi. Et là, il n'y a pas de distinction dans l'œuvre du Seigneur, dans notre vie. Il n'est pas simplement en train de travailler notre foi, il est en train de travailler toute notre personne. Et c'est son désir d'aller travailler toute notre personne. Alors on pourrait se dire, mais c'est quoi le caractère? Et qu'est-ce que j'entends par le caractère? Alors, il y a beaucoup de définitions très officielles et tout ça, mais moi je vais simplement prendre quelques petites choses qui feront peut-être un peu tilt dans... Alors oui, ce sont vraiment ces traits de personnalité et ces comportements qui révèlent vraiment qui nous sommes. Parce qu'on arrive tous à faire des choses un petit peu de façon exceptionnelle. Et on se présente bien, ou alors on fait des choses mal, mais bon, d'accord, mais c'est un petit peu des extrêmes. Mais lorsqu'on regarde une personne, lorsqu'on connaît une personne, on peut dire, voilà, elle a tel trait de caractère, tel trait de personnalité, elle se comporte généralement comme ça, c'est son caractère. C'est ce qui est au plus profond de la personne. Et si vous coupiez toutes les tranches, vous retrouveriez toujours ce trait de caractère, cette même fibre qui pénètre toute la personne, de sa tête jusqu'à ses doigts de pied. Ce n'est pas ce qui est superficiel. C'est ce qui est habituel. Et lorsque vous pensez à vous-même et des choses que vous faites régulièrement ou qui reviennent toujours, vous les faites d'une certaine façon ou vous pensez d'une certaine façon, c'est ça votre caractère. C'est ça votre personnalité. C'est ce qui nous fait dire « Ouais, c'est tout lui. Voilà, il a fait ça, ben ouais, c'est tout lui. Ouais, c'est elle. » Parce qu'on sait quelle est cette personne? Et ce qu'elle fait là, bah, ouais, c'est une expression de réellement qui elle est au fin fond d'elle-même. Ou alors, cette autre expression, vous savez, c'est ce qui revient au galop. Hein, chasser le naturel et il revient au galop. Tout ce que nous essayons de faire dans notre vie pour essayer de dominer, de surmonter, de dépasser, mais qui revient comme ça, c'est peut-être là où on est en train de se dire, c'est ça qui est véritablement notre tempérament et notre caractère. Et c'est là-dessus qu'il nous faut travailler. Qu'est-ce qui nous revient naturellement? Positif comme négatif. Mais c'est là où nous touchons le fond du cœur de l'homme. Et ce que le Seigneur entend travailler. Parfois même on dira que c'est ce qu'on a reçu de nos parents. C'est tout son père. Ah nous on a ça dans notre famille. Puis après, il y a des choses, c'est tout son père, et puis c'est des choses qui sont un petit peu boiteuses, c'est tout sa mère, c'est des choses qui sont bien. Ou ça remonte à son grand-père. Et on a tous, on arrive à trouver des choses qui sont de la personnalité et qui transparaissent dans une personne, mais qui sont en fait cette fibre, cette trempe que nous sommes. Ou alors, notre caractère, c'est ce qu'on fait lorsque on pense que personne ne regarde. Hein? Il y en a qui se grattent le nez. Mais imaginez plus loin. Combien de fois est-ce que vous trouvez dans des situations où vous aviez l'impression que, hormis le Seigneur, parce qu'on sait qu'il regarde tout le temps, mais vous avez l'impression que personne ne regarde. Et puis, c'est comme ça que je vais faire les choses. Parce que c'est comme ça que je les sens. Et c'est là où notre caractère apparaît aussi. C'est aussi les choses qu'on fait quelquefois en toute spontanéité, lorsqu'on est dans une circonstance qui nous déstabilise un petit peu, et hop, presque par réflexe, on fait quelque chose, et hop, là, tout d'un coup, on dit, tiens, ça aussi, c'est quelque chose qui sort de son caractère et de sa fibre. Là aussi, que ce soit des actions héroïques, ou que ce soit des actions qu'on regrette par la suite. Mais c'est ce genre de choses-là, c'est par ces symptômes-là qu'on arrive à toucher du doigt un petit peu ce que le Seigneur entend travailler dans le fond de nous-mêmes. Et c'est peut-être pour cela aussi que le fruit de l'Esprit est au singulier et que toutes ces caractéristiques ne forment qu'en fait qu'une seule chose, qui est cette personne que le Seigneur entend transformer à sa gloire parce qu'il l'aime. Et parce qu'il entend la transformer à l'image de son Fils. Ainsi donc, nous dépassons toutes ces questions de qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Bien sûr, le Seigneur nous donne des tuyaux, etc. et tout. Mais tout ça, c'est pour arriver à tout simplement à ce que nous transformions avec son aide la personne que nous sommes en lui. Et chers amis, si ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit, et si réellement l'Écriture nous dit que c'est ce qui, la raison pour laquelle il travaille, c'est le mandat qui lui a été donné, attendez-vous à ce qu'on crée de l'espace dans notre Église pour que non seulement nous sachions collectivement organiser nos activités et de faire de belles choses ensemble, mais à ce que nous créions des espaces et des moyens par lesquels nous pourrons tous individuellement grandir, affermir, transformer notre personnalité dans le Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur vise au fond. Alors on peut se poser des questions sur comment, et comme on pourrait discuter longtemps sur tous ces différents traits comme celui de Galates, mais on pourrait aussi discuter longuement sur comment faire. Et j'aimerais simplement pour conclure vous donner 3-4 thèmes qui me semblent être importants dans le Nouveau Testament, qui nous aident à comprendre comment nous pouvons poursuivre cette transformation. La première, c'est simplement de réaffirmer encore une fois ses promesses. Ok ? Les promesses, ce n'est pas simplement « Ouais, c'est sympa de ta part, Seigneur, je les utiliserai quand j'en aurai besoin. » Les promesses, c'est cette vie abondante que le Seigneur veut nous donner et qu'il entend nous donner. Et qu'il nous demande de ne pas simplement mettre de côté en disant « Ouais, bon, c'est bon pour les autres, je verrai quand je serai disponible. » Non. C'est tout simplement de regarder à qu'est-ce que le Seigneur entend faire lorsqu'il nous fait des promesses. Qu'est-ce que le Seigneur entend dans ma vie lorsqu'il dit « Je te donne ma paix et je ne la donne pas comme le monde la donne. Je te donne ma joie. » Oui. À chaque jour, John, suffit ta peine. Demain, on verra. Ou tout simplement, ma grâce te suffit. Il y a du travail à faire pour laisser ces paroles nous pénétrer, devenir réalité, chambouler tout ce qui est fond. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne les veut pas, parce qu'elles chamboulent beaucoup de choses. La deuxième chose, là je pourrais m'étendre encore, la deuxième chose, c'est ce que j'appellerais, et ce que certains théologiens appellent aussi, cette union mystique à Jésus-Christ. Alors il y a quelque chose qui s'exprime dans cette image que nous sommes les sarments et que nous sommes accrochés au cep. Il y a le fait que nous sommes unis par le Saint-Esprit à Jésus-Christ d'une façon totalement surnaturelle et qui fait que c'est de cela que nous vivons. Qu'est-ce qui fait que ce matin nous sommes unis dans la prière et dans la même foi, la même espérance, la même adoration au Seigneur, si ce n'est quelque chose de surnaturel, une vie surnaturelle que le Seigneur fait passer de lui à nous. Et il nous met en garde de tout simplement nous détacher du cep et de partir de notre côté en disant « Ça y est, Seigneur, j'ai compris, je vais le faire. » Il y a toute une relation à cultiver avec notre Seigneur pour rester dans cette relation intime avec lui qui nourrit notre foi. Et là aussi, j'aimerais vous renvoyer peut-être à les textes d'Éphésiens où il est parlé de nos relations entre nous et même les relations dans le couple. C'est à cause du Seigneur ou en raison du Seigneur ou grâce au Seigneur que nous pouvons vivre en relation les uns avec les autres. Et que si nous n'avons pas cette relation au Seigneur, il est très difficile de vivre en relation les uns avec les autres. Donc ne mettons pas de côté cette union, cette relation que nous avons au Seigneur. Ensuite, vous avez toute une série d'images autour de se défaire ou se dévêtir et de revêtir. Et là aussi, on pourrait plonger nos regards un petit peu là-dedans, mais il y a un certain nombre de choses où un caractère se change par changer nos habitudes. Et il faut renoncer à certaines choses et puis commencer à en adopter d'autres. Mais là aussi, nous sommes encouragés à regarder, tiens, qu'est-ce que je vais arrêter de faire? Et ça va être un petit peu difficile au début, ça va être un petit peu forcé, mais avec le temps et la grâce de Dieu, je changerai. Il y a aussi toute l'image d'imiter Jésus-Christ, de regarder comment lui s'est comporté, qui il est, et puis de se dire, je vais faire la même chose que lui, lui qui est mon frère, lui qui m'a précédé dans la foi. Lui qui prie tous les jours, le Seigneur. Lui qui a tourné la joue droite, ou la gauche, ou je ne sais plus laquelle, quand on l'a frappé sur l'autre. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces choses-là pour nourrir notre propre vie? Mais la dernière chose que j'aimerais dire aussi, c'est que comme c'est la vie de l'esprit, il y a des moments où on peut progresser, et puis quelquefois, pour X raisons, on peut régresser. C'est aussi quelque chose que le Seigneur travaille dans le temps. Parce que notre vie et tous les événements que nous vivons, c'est le matériau qu'il utilise. Et donc, il ne faut pas nécessairement se dire, tiens, jusqu'à 25 ans, je vais progresser dans le Seigneur, après, ça sera superbe. Non, parce que le Seigneur, lui, continuellement, nous travaille par tous les événements que nous pouvons vivre. Et c'est une œuvre de toute notre vie. Alors, à vous qui débutez dans la foi, sachez que vous démarrez dans quelque chose de tous les jours. À nous qui avons quelques heures de vol derrière nous avec le Seigneur et qui peut-être disons, on souffle un petit peu, non, le Seigneur a encore des réserves dans ses promesses qui dépassent notre entendement et nous demande de continuer. Et peut-être certains d'entre nous qui peut-être arrivons vers la fin de notre vie, on se dit, non, là non plus, le Seigneur a encore des choses qu'il souhaite nous enseigner. Alors, chers amis, j'aimerais vous laisser sur cette piste. Ne regardez pas simplement ce qu'il faut faire ou pas faire, mais regardez deux choses. L'œuvre du Saint-Esprit est aussi, et de façon ultime, le travail qu'il va faire dans la vie de chacun d'entre nous. Ok ? Pas simplement ce qui va se passer dans notre communauté, mais ce qui va se passer dans la vie de chacun d'entre nous. Et la deuxième chose, ce n'est pas une question de simplement faire ou pas faire. C'est une question de savoir qui nous devenons en Dieu et par Jésus-Christ. Et ça, c'est un projet formidable. C'est un projet formidable que le Seigneur a pour nous. Et j'espère que vous êtes encouragés par cela. Mais attendez-vous aussi à ce que dans les mois ou les années qui viennent, on va créer cet espace pour que on ne s'arrête pas simplement à être bien ensemble, mais à ce que le Seigneur puisse accomplir l'œuvre dans chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, quoi que nous ayons vécu, quoi que nous ayons fait. Parce qu'à tout le monde à qui il a donné la foi, c'est le projet qu'il a entamé. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons rester tout simplement dans le silence devant la puissance de ta parole et la grandeur de ton projet et de ton amour envers nous. Et Seigneur, nous aimerions aussi tout simplement ouvrir notre cœur et c'est peut-être avec tremblement que nous le faisons. C'est peut-être avec peu de confiance aussi que nous le faisons. Mais Seigneur, ce matin, par la foi, nous voulons ouvrir notre cœur afin que tu puisses venir par ton Esprit Saint nous transformer. Non pas parce que tu ne nous aimes pas, mais parce que tu nous aimes. Et Seigneur, nous voulons saisir aujourd'hui tes promesses et surtout, Seigneur, celle de contempler la gloire de ton Fils. Et c'est cette gloire à laquelle tu nous appelles. Seigneur, que nous puissions repartir maintenant armés et décidés à ne pas nous résigner ou ne pas être vaincus par quoi que ce soit, mais tout simplement à t'écouter et en ton temps, nous laisser modeler comme tu le souhaites. Donne-nous, Seigneur, aussi la volonté et la force d'agir comme tu le souhaites. Seigneur, notre Dieu, nous sommes émerveillés devant ta parole. Et encore ce matin, nous te remercions parce que tu as parlé par des personnes comme Pierre, à qui non seulement tu as dicté des paroles, mais par leur propre vie, Seigneur, tu les as enseignées. Et derrière ces paroles, on sent très bien tout ce que Pierre a vécu avec toi. Sois glorifié, sois béni, sois loué, parce que tu es vivant. Et tu nous as vivifiés. Au nom de Jésus, amen.
Alors voilà tout un programme. Si quelqu'un dit qu'il s'ennuie cette semaine, en tout cas il pourra réécouter le message sur le site, je pense déjà. J'aimerais vous faire part des quelques annonces concernant justement la reprise d'activité. Ça sent la fin de vacances déjà, un petit peu. Hein. Demain soir, conseil d'anciens à 20h, priez plus que jamais. Je veux dire, enfin plus que jamais, c'est peut-être une formule aussi, mais priez comme d'habitude et continuez à prier pour le conseil d'anciens aussi. On en a aussi besoin pour être guidé. Mardi, étude biblique pour les aînés à 14h30 ici. Et puis jeudi, alors vous êtes plus que jamais cette fois encore invité aussi à participer à la réunion de prière ici à 20h30. Une autre annonce importante, on a parlé du club, de ce qui s'est passé la semaine passée, donc sur le camp d'enfants. Vous pouvez retrouver les photos sur le site, mais sur le site, il y a un mot de passe qu'on vous demandera. Et ce mot de passe, ça n'est pas formidable, mais c'est fourmidable. On a bien compris, c'est une fourmilière, c'est pas une fourmilière l'église. Donc le mot de passe c'est fourmidable, tout simplement. Voilà, comme ça chacun qui a le mot de passe peut entrer dans cette petite ouverture, aller voir tout ce qu'il y a, toutes les photos du camp. Voilà, j'ai encore une autre annonce à vous faire, vous rappelez le mariage de Sabrina et de Cédric qui a lieu le 1er septembre. Cyril, pourquoi je dis Cédric ? Cyril, qui a lieu le 1er septembre. On veut se réjouir aussi de partager ce temps avec eux. Voilà, je n'ai pas d'autre annonce à faire, mais simplement je vais vous demander de vous lever. Et je vous relirai quelques versets qu'on a lus ce matin, qui me semblent importants à garder comme leitmotiv pour ce redémarrage d'année peut-être. Le verset 3 que nous a lu John, « Sa divine puissance nous a tout donné » nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, nous devenions participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faisons tous nos efforts pour joindre à la foi, etc. Vous relirez. Et puis ça nous est adressé, comme le dit Simon-Pierre, à nous, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que celle de Simon-Pierre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et il est rajouté que la gloire et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Un programme pour notre Église, pour nos Églises, pour la rentrée. Amen. Amen. Merci, que Dieu bénisse chacun. Bonne semaine, bonne rentrée, bon retour à chacun.